pleinement sur lui. Toutefois, ce soir-là, Robin et Alice rirent bien plus qu'à l'accoutumée, et ils dormirent plus profondément que les autres nuits sans être réveillés par les bruits de leurs hôtes. En effet, la nuit, les bédouins faisaient délibérément du chahut pour faire savoir aux voleurs, il y en avait quelques-uns dans ces contrées désertiques, qu'ils étaient éveillés et en grand nombre. Et puis enfin, à l'issue du 15e jour, après avoir franchi moult collines calcaires qui se chevauchaient comme des vagues sur une mer de tempête, après s'être avancés dans la chaîne de montagnes granitiques dont les sommets se perdaient dans les nues, ils arrivèrent épuisés mais heureux sur un haut plateau qui se refermait comme un amphithéâtre. Là, le monastère millénaire, citadelle de pierre jaune, mirage au milieu du rien, se dressait fièrement au pied du mont Sinaï, le long duquel les derniers rayons du soleil ruisselaient comme autant de cascades argentées. Nous ne saurions dire avec justesse l'émotion qui envahit alors nos trois héros. Car ici était le terme de leur voyage. Ici était la promesse d'une réponse tant attendue, pour laquelle ils avaient parcouru le monde, vaincu des ennemis et perdu des amis. C'est dans un silence éloquent, d'ailleurs, qu'ils admirèrent ce lieu dans la lumière orangée du crépuscule. Le mur d'enceinte, épais, austère, carré, élevé en gros blocs de granit, était soutenu par de larges contreforts qui lui donnaient l'apparence d'une forteresse flanquée de tours et de bastions. De la même couleur que le sable qui l'entourait, tremblant dans les vapeurs vacillantes du soir, on eût dit un vaisseau fantomatique qui se fût soulevé du sol. Ici et là, l'enceinte était abîmée. Et de loin, on entendait des bruits de marteaux heurtant la pierre qui laissaient penser que, de l'intérieur, on la réparait encore. De cette muraille n'émergeait qu'une seule construction, et c'était un minaret, car le monastère abritait aussi une mosquée. En face de la façade ouest du couvent, des murets en pierre sèche encerclaient un grand jardin dont la splendeur verte semblait purement miraculeuse dans ce désert. Et au nord de ce jardin était un cimetière, dont on apercevait les tombes au milieu de hauts cyprès. Tout autour de l'édifice, lequel était placé sur un terrain en pente, on voyait errer des bédouins en guenilles, attirés là par la charité des moines, qui chaque jour leur faisait descendre des vivres par les murs du monastère. Mais une chose d'emblée étonna vivement Andreas et ses compagnons. Nulle part sur la principale façade du bâtiment, qui était vers l'orient derrière le jardin, ils ne virent d'ouverture. « Où est la porte ?» demanda Andreas au chef des bédouins qui les avait accompagnés. « Il n'y a pas de porte, » répondit l'autre en souriant. Andreas fronça les sourcils. « Comment entre-t-on ? » Pour toute réponse, l'homme se contenta de tendre le doigt vers le sommet de la muraille. Andreas, plissant les yeux, aperçut alors une large corbeille attachée au bout d'une corde, laquelle passait par une poulie. Incroyable ! En ce temps, la seule porte du monastère avait été murée, et tout ce qui entrait à l'intérieur des murs, les hommes comme les provisions, était hissé par le moyen de cette corde. Ainsi le couvent se préservait des intrusions, coupé du monde, inviolable, aussi imprenable même que l'eût été Troie sans ce grand cheval de bois imaginé par Ulysse. Quant au jardin, on y accédait par un souterrain secret, dont les deux bouts étaient clos. Tel était donc le secret du monastère Sainte-Catherine pour avoir survécu si longtemps en terre hostile. Mais pour dire l'entière vérité, cette manœuvre seule n'eût peut-être point suffi. Il fallut aussi compter sur l'astuce des moines pour protéger l'endroit. Assurément, pour subsister et continuer d'offrir l'hospitalité aux pèlerins, les moines de Sainte-Catherine, les caloyers, durent moult fois composer avec les sarrasins. Ils affirmèrent notamment que le prophète Mahomet lui-même avait jadis séjourné en ces murs et garanti à leurs occupants quelques privilèges, ce qu'ils prouvèrent en produisant un manuscrit signé de sa main. De même, les religieux firent construire au Xe siècle cette mosquée à l'intérieur du monastère, pour éviter que les hommes du calife Al-Hakim ne le détruisissent, comme ils en avaient reçu l'ordre. Enfin, ils effectuèrent